Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre série consacrée à l'économie de l'armement. Hier, nous nous demandions si la recherche militaire était toujours à l'avant-garde de l'innovation. Lundi, nous interrogions cet adage selon lequel une bonne guerre est le moyen de relancer l'économie. Aujourd'hui, c'est le commerce illicite d'armes à feu qui va attirer notre attention. Un trafic qui se situe bien souvent aux frontières du marché noir et du marché légal. Ce sont en effet les États qui produisent en toute légalité les armes qui rejoindront les réseaux criminels ou alimenteront les guérillas. Alors comment cette économie parallèle s'organise-t-elle? Dans quelle mesure révèle-t-elle la faiblesse des États? Et comment expliquer l'échec de la régulation? Voilà les questions qui vont nous occuper dans ce troisième épisode. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous pencher sur le commerce illégal d'armement en compagnie de Jean-Charles Antoine en duplex d'Aix-en-Provence, docteur en géopolitique, auteur de cet ouvrage « Au cœur du trafic d'armes des Balkans aux banlieues » paru aux éditions Vendémiaire. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes de la planète est votre patron, le président des États-Unis qui vend plus de matériel en une journée que moi en un an, il peut s'avérer embarrassant qu'on retrouve ses empreintes sur la gâchette. Et c'est pour ça qu'il a besoin de freelance comme moi, pour approvisionner certains amis dans le besoin. Donc, si à vos yeux, j'incarne le mal, malheureusement pour vous, je suis un mal nécessaire.
Bonjour Jean-Charles Antoine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez peut-être reconnu le film Lord of War d'Andrew Niccol sorti en 2005. Nicolas Cage y incarne Victor Boot, le tristement célèbre marchand d'armes condamné aux États-Unis à 25 ans de prison en 2012. En quoi Victor Boot, pour commencer, Jean-Charles Antoine, est-il peut-être l'archétype même du trafiquant d'armes international?
Il faut faire une petite différence entre Yuri Orlov et Victor Boot. Yuri Orlov, c'est le héros de Lord of War. Et Victor Boot est un des personnages qui l'a inspiré. Mais on peut aussi mettre en relation Léonid Minin, qui était un Ukrainien, le patron de la mafia d'Odessa, qui a aussi inspiré le personnage de Yuri Orlov. Alors, qui était Victor Boot? C'était la figure emblématique dans les années 90 et début 2000 du trafic mondial d'armes légères et de petit calibre. Pourquoi la figure emblématique? Parce que c'est un homme qui déjà était polyglotte, c'était un traducteur soviétique, pas russe, mais tadjik d'origine, qui parlait une dizaine de langues et qui a su, vers 23-24 ans, sentir la situation de l'effondrement du bloc soviétique. Et il a décidé d'acheter une cinquantaine ou soixante appareils aéronefs pour vendre des armes aux personnes qui considéraient en avoir besoin. Et c'est comme ça qu'il s'est, grâce à son opportunisme et grâce à son intelligence, il faut le dire, a su combler des besoins à une époque où les rivalités armées étaient en pleine expansion à la chute du bloc soviétique et de ce qu'on appelait à ce moment-là le monde bipolaire.
Donc ce sont ses relations avec les cadres de l'ancienne armée soviétique qui lui ont permis de développer son commerce.
Pas uniquement, c'est avec les cadres des différents services de renseignement ou des contacts qu'il avait déjà eu auparavant en Afrique, en Angola ou ailleurs, et qui lui ont permis de rebondir grâce au commerce illégal des armes. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, tout s'est effondré. On n'imagine plus à l'heure actuelle ce que c'était, mais il fallait voir que tous les critères administratifs, politiques, économiques, financiers avaient disparu du jour au lendemain. Et y compris les pays qui étaient aidés par Moscou, ont eu des besoins face aux crises intérieures. Et des hommes comme Victor Boot, et lui en particulier, ont su apporter une réponse sécuritaire, et c'est comme ça qu'il se présentait d'ailleurs, comme un, quelqu'un qui apportait un service à ses clients, comme un producteur de sécurité, au final. Il se présentait comme ça pour dire, voilà, je vous apporte les moyens de vous défendre ou d'attaquer votre ennemi.
Avec une bonne dose de cynisme, puisqu'il déclare, il assume le fait de vendre des armes à tout le monde et à des forces qui sont opposées, par exemple.
Bien sûr, mais est-ce qu'il existe une matière dans le commerce international sans cynisme ? C'est du réalisme, lui le présentait comme du réalisme politique. Et c'est difficile de juger, parce que à ce moment-là, il y avait vraiment, et je ne suis pas en train de réhabiliter Victor Bout, vous imaginez bien, mais c'est de comprendre le mécanisme psychologique interne à cette personne et que ses interlocuteurs ont ressenti pour comprendre comment il a su apporter justement une réponse à des besoins en armes. Et lui, c'est effectivement le rouage qui permettait à d'autres de ne pas le faire, parce que les intérêts stratégiques des États sont tels qu'il faut des personnages pour pouvoir faire un travail plus discret, plus gris.
Victor Bout, qui a finalement été arrêté en mars 2008 dans un hôtel de luxe de Bangkok, et les Américains vont recourir à un stratagème pour le piéger. Les agents américains vont se faire passer pour des guérilleros, des FARC colombiens cherchant à acheter des armes. Et ce qui est intéressant, Jean-Charles Antoine, c'est que si Victor Bout a échappé à la perpétuité, c'est parce qu'il a également rendu des services aux États, et notamment à l'armée américaine, en Irak et en Afghanistan.
Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a toujours, comme ses congénères à cette même époque, ont toujours essayé de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, en à la fois fournissant des armes à une équipe et fournissant des armes de l'autre côté. La légende dit que en Afrique, à un moment donné, il est allé fournir des armes à des guérilleros et en même temps des pansements à leurs ennemis. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de couvrir le spectre entier de la sécurité, y compris sanglante, mais d'apporter aussi des réponses contre ces actes sanglants. Donc c'est du cynisme pur, effectivement, mais masqué avec les oripeaux du commerce.
Alors je le disais en introduction, la spécificité des armes à feu par rapport à d'autres économies parallèles comme le trafic de drogue, c'est que la très grande majorité des armes est produite légalement, mis à part quelques tentatives de fabrication artisanale d'armes comme l'a tenté l'ETA dans les années 80, comme vous nous l'expliquez dans votre article. Mais autrement, c'est une production avant tout légale, la production d'armes, Jean-Charles Antoine.
Quasiment exclusivement légale, à 99,99%, parce qu'il faut un tel savoir-faire pour les lignes de production que c'est quasiment impossible de fournir tout seul dans un garage ou dans une cave une arme, qu'elle soit efficace et qu'elle puisse être suffisamment sécurisée pour le tireur. Donc effectivement, la quasi écrasante majorité des armes sont produites légalement dans les usines de fabrication.
Et il y a plusieurs marchés. Il y a le marché blanc, licite, qui sont les transactions entre deux États. Un marché noir qui est 100% illégal. Et un marché qu'on peut qualifier de gris. En quoi est-ce que ce troisième marché consiste, Jean-Charles Antoine ?
La couleur grise est un choix excellent parce que ce n'est pas du noir et ce n'est pas du blanc. C'est vraiment une couleur intermédiaire, un mélange des deux. Et pour ce qui concerne le trafic d'armes, c'est exactement la meilleure illustration. Ce n'est pas totalement légal, ce n'est plus totalement légal, mais ce n'est pas entièrement amoral au sens où les auteurs l'utilisent. Je prends l'exemple de livraison à des acteurs qui ne sont pas étatiques, mais qui sont rebelles face à un gouvernement, exemple le gouvernement syrien ces dernières années, et des États officiellement décident d'approvisionner en armes et en munitions ces groupes rebelles. Ce n'est pas du marché blanc, puisqu'il n'y a pas de contrat commercial entre les États et les groupes rebelles. Et ce n'est pas non plus considéré comme du marché noir rampant sur les territoires sous le manteau, parce que ces approvisionnements ont revêtu un certain aspect moral, en disant « ces armes vont vous aider à combattre le régime dictatorial de tel ou tel dirigeant ». Donc le marché gris est entre les deux. Il est acceptable moralement, mais il n'est pas ancré dans un cadre commercial légal complet.
Et ça, c'est assez nouveau, Jean-Charles Antoine, le fait d'assumer publiquement le fait d'envoyer un certain nombre d'armes pour soutenir une rébellion au nom de la démocratie.
C'est totalement nouveau, effectivement. Le fait de l'assumer publiquement, politiquement, face à l'opinion publique internationale. Pour autant, ce n'est pas nouveau de le faire. J'aurais même tendance à dire que ça a toujours été fait, puisque certaines cités grecques dans l'Antiquité le faisaient contre d'autres cités grecques. Alors c'était à l'époque des épées, mais le mécanisme est exactement le même. Mais le fait de l'assumer totalement, parce que c'est considéré comme moral contre une dictature, oui, c'est une manière un peu nouvelle de faire la politique internationale.
Les États peuvent fournir directement des armes à une rébellion, mais ils peuvent aussi passer par un pays tiers, et ça a été le cas des États-Unis dans les années 80, qui ont fourni des armes au Pakistan, dans le but qu'elles soient ensuite transférées aux Moudjahidines afghans en pleine guerre contre l'URSS.
Totalement. C'est le fruit de la géopolitique. Il faut regarder le commerce international et illégal des armes comme un outil au service de la géopolitique. Pourquoi ? Parce que c'est un outil que l'on met dans la main d'un être humain pour amplifier sa puissance, en l'occurrence sa puissance de feu. Et donc, en fournissant des armes à des combattants, qu'ils soient civils ou militaires, on leur donne la capacité de prendre le dessus sur leurs adversaires. Et si ces adversaires sont également nos adversaires, ça nous permet de faire travailler des intermédiaires sans se mouiller, entre guillemets, pardon pour l'expression, se mouiller politiquement face aux amis de nos adversaires. Vous voyez, donc c'est un billard à plusieurs bandes. Et effectivement, c'est quelque chose qui permet de jouer sur différentes ficelles de la géopolitique sans pour autant être attaquable officiellement.
Vous parliez tout à l'heure, Jean-Charles Antoine, de l'implosion de l'URSS en 1991, qui va entraîner l'arrivée sur le marché noir d'un arsenal colossal. Pourquoi est-ce que les militaires soviétiques vendent alors leur matériel à la chute de l'URSS ?
Alors il faut déjà éviter quelques idées reçues. Il faut revenir 30 ans en arrière, environ 30 ans en arrière, au moment où j'ai commencé justement à m'intéresser au trafic d'armes en 1990-91. Tout s'est effondré quasiment du jour au lendemain. On parlait des militaires soviétiques alors qu'il fallait à l'époque regarder les militaires polonais, russes, roumains, yougoslaves et ne pas les mettre tous dans la même catégorie. Et il se trouve que du jour au lendemain, les militaires dits soviétiques n'ont plus été rémunérés. Et on voyait sur les marchés noirs à Berlin ou en Pologne des colonels de l'armée rouge vendre leurs médailles, leurs chapska, leurs bottes. J'ai des souvenirs d'avoir vu certains officiers supérieurs soviétiques au garde à vous en train de vendre la larme à l'œil différents objets de leur quotidien pour donner à manger à leurs femmes et leurs enfants. Et donc l'arme qui a forcément un prix intéressant plus que des ustensiles de cuisine, les armes devenaient une matière à vendre, sachant qu'en face, il y avait des besoins. Et c'est comme ça que, effectivement, toute la production pendant 30 ou 40 ans, la production d'armes qui était totalement irrationnelle de l'autre côté du rideau de fer, est devenue un marché porteur parce que, en Afrique, principalement, de nombreux conflits nécessitaient nécessitait l'arrivée massive d'armes et de munitions. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite, tout simplement. Et à ce titre, l'ensemble des militaires, tout grade confondu, de l'armurier jusqu'au général, certains ont vu l'opportunité de continuer à vivre décemment, on va dire.
Et puis il y avait aussi le fait que les anciens pays du pacte de Varsovie devaient adapter leur arsenal à mesure qu'ils rejoignaient l'OTAN et en même temps qu'il fallait renouveler la production d'armes dans ces pays parce qu'il fallait maintenir un emploi stable dans les usines de fabrication. Il y avait aussi une logique économique.
Exactement, plus qu'économique, politique, de politique intérieure. Les usines d'armement, comme je le disais, avec une production totalement irrationnelle, les armes ne se produisaient pas toutes seules. Donc il y avait des centaines de milliers d'emplois à la clé. Mais en plus, comme vous l'avez souligné, il fallait, en quittant le pacte de Varsovie pour rentrer dans l'OTAN, il fallait obligatoirement passer du calibre 7,62 au calibre 5,56. Et donc les canons des armes n'étaient plus valables du jour au lendemain. Alors ça permettait, il faut être honnête, ça permettait de relancer un peu la production et de donner du travail à ces centaines de milliers d'employés dans les usines. Mais toutes les armes, il fallait aussi les faire disparaître, entre guillemets, c'est-à-dire s'en débarrasser pour pouvoir ne pas les garder inutilement dans des arsenaux, comme c'était le cas en Moldavie en 1992, où sur la bande territoriale de la Transnistrie. Des milliers, des dizaines de milliers d'armes ont été laissées en 1992-94 en plein air. Quelquefois dans des arsenaux, quelquefois en dehors. Et pour éviter ça, les nouveaux gouvernements qui n'avaient pas l'expérience politique après 70 ans de couvercle soviétique ont trouvé, certains, la possibilité de se débarrasser de ces armes et de ces munitions en les vendant à l'extérieur, souvent sur le continent africain.
Et ces armes circulaient d'autant plus facilement qu'à partir de 1993, le traité de Schengen est signé, qui acte la disparition des frontières dans l'Union européenne. C'est aussi un acte fondateur pour la circulation des armes.
Un acte fondateur, je n'irai pas jusque-là, mais un acte accélérateur. Les armes qui partaient de Bulgarie ou de Roumanie par bateau pour arriver en Libye ou par avion vers l'Afrique centrale n'étaient pas concernées au final par l'espace Schengen. Pardon. En revanche, pour la circulation à beaucoup plus petite échelle sur le continent européen, effectivement, il y a eu trois facteurs concordants qui ont provoqué ce boom du trafic d'armes en Europe occidentale. Tout d'abord, l'accès à cette production totalement irrationnelle dont on parlait auparavant. Deuxièmement, un regain de besoin, notamment dans la zone des Balkans, suite à l'implosion des rivalités armées entre Serbes, Croates, Bosniaques. Et puis enfin, la libération des frontières avec leur disparition au sein de l'espace Schengen, qui, cette disparition, n'a pas été à l'origine du trafic d'armes, mais a facilité la livraison. Ça n'a pas créé l'offre, ça n'a pas créé la demande. En revanche, ça a facilité la connexion entre les deux.
Et vous l'avez dit, les conflits dans les Balkans dans les années 90 vont entraîner l'expansion de multiples filières locales du marché noir. D'où viennent alors les armes, Jean-Charles Antoine ?
Au moment de la crise dans les Balkans ?
Oui.
Directement des usines de fabrication dans les Balkans. Au plus proche, en Serbie, les usines Zastava, qui étaient des usines de fabrication de voitures, mais aussi d'armement. Et elles ont produit des millions et des millions d'armes légères et de petit calibre et donc de munitions. La fameuse Zastava M70, où là, il y avait une diffusion de ces armes au travers de tous les combattants qui les gardaient la plupart du temps après leur service chez eux.
Il y avait aussi des armes qui venaient des puissances étrangères, notamment l'Arabie Saoudite, mais aussi les États-Unis.
Oui, ça c'était pour aider les Bosniaques. Ensuite, il y a des armes qui venaient directement de Bulgarie aussi, puisque certaines étaient achetées pour aller former des unités combattantes et les approvisionner en armes et en munitions. Quand vous avez un conflit, vous avez toujours une concentration de besoins. Et ce besoin ne s'arrête que quand le conflit s'arrête. Donc j'allais dire quotidiennement, il y a besoin de munitions et mensuellement, il y a besoin d'armes. Soit parce qu'elles sont perdues, soit parce qu'elles sont volées, soit parce qu'elles sont détruites. Donc, la plupart du temps, vous avez un besoin sempiternel, tant que le conflit perdure, un besoin continu d'armes, de munitions, parce qu'un combattant sans armes, ce n'est plus un combattant efficace.
En l'occurrence, une partie des armes qui ont servi aux attentats de 2015 à Paris provenaient justement des Balkans. Les stocks d'armes présents dans la région sont encore considérables, comme le confirment ses habitants de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine.
Les armes, elles sont dans les maisons, dans les greniers, enterrées quelque part, planquées chez les voisins parfois. Chacun s'est débrouillé en fait. Les gens ont peur. Si la guerre recommence, ils veulent être prêts.
Bien sûr, les trafiquants savent que ces armes sont entre les mains des citoyens et ils font de plus en plus pression pour se les approprier. Il faut voir ce que nous pouvons faire ici en Bosnie pour que ces armes détenues illégalement par des groupes ou des individus repassent sous le contrôle de l'État. Ce sera une façon de porter un coup au trafic d'armes. Il faudra se débrouiller pour que les citoyens nous remettent ces armes volontairement. Il faudra sans doute les racheter. Vous voyez, si un trafiquant se présente pour racheter un fusil automatique à 150 euros, il faut faut que le citoyen comprenne qu'il ferait mieux de le vendre à l'État pour 100 euros. Cela, il ne devrait pas en répondre devant la justice.
Détenir des armes dans les Balkans, c'est hélas perçu comme le seul moyen de défense efficace. Après tous les traumatismes, les tragédies, le génocide qui s'est déroulé en Bosnie, c'est à cause de tout ça que les gens veulent garder ces armes et rien ne pourrait les persuader de faire le contraire. Surtout quand vous regardez la situation encore très tendue dans les Balkans.
Les témoignages extraits d'un reportage de Mercy Anesic pour RFI. On entend ici la défiance des habitants vis-à-vis de la capacité de l'État à les protéger. C'est l'une des caractéristiques du marché noir, Jean-Charles Antoine.
C'est la caractéristique centrale, vraiment. Parce que le trafic d'armes se développe sur des territoires uniquement en cas de besoin réel ou ressenti. Et ce besoin réel, c'est le besoin de défense de soi-même, de ses proches, de ses biens, de son territoire, de sa maison. Le besoin ressenti, c'est l'impression qu'on peut avoir d'en avoir besoin un jour, voire prochainement. Et ça, c'est l'ensemble de ces deux paramètres, besoin réel ou besoin ressenti, qui vont, s'ils ne sont pas combattus, qui vont pousser les citoyens soit à conserver leurs armes et leurs munitions, soit à en acquérir. Et tant que ces deux volets ne sont pas pris en compte de manière pérenne, le trafic d'armes ne peut pas réduire. Parce que n'importe quel citoyen, vous, moi, n'importe qui sentira sa sécurité menacée, aura le réflexe de se défendre. C'est totalement humain.
Ce qui entraîne la volonté et la nécessité de réfléchir aux causes, en effet, et pas seulement à la nécessité de la régulation, on va en reparler. Mais d'abord, comment est-ce que les armes légales rejoignent les circuits illégaux ? C'est là que la corruption joue un rôle déterminant, Jean-Charles Antoine. Comment est-ce que ça se passe concrètement ?
Vous avez plusieurs phases. Quand ça commence dans une usine de fabrication, vous pouvez avoir la technique qui consiste à dévier certaines armes ou éléments d'armes en faisant un faux procès-verbal de destruction. Là, les armes sont sorties, elles sont officiellement détruites alors qu'elles ne le sont pas en réalité et elles sont ressorties par éléments à l'extérieur de l'usine en étant revendues. Dans les Balkans, traditionnellement, c'est de l'ordre de 15, 20, 25 euros l'élément d'arme. Mais quand tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, vous sortez de ce genre d'éléments d'armes de manière rémunérée, à la fin du mois, vous pouvez doubler votre salaire. Et à l'extérieur, des personnes récupèrent ces éléments, les remontent et constituent des armes. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique consiste à, lorsqu'elles sont sorties des usines de fabrication, à les dérober dans des arsenaux. Je vous rappelle qu'en 1997, lors de l'effondrement de la société albanaise, en 3 ou 4 jours, l'ensemble des arsenaux de Tirana ont été totalement dévalisés par la population. Et ces armes sont parties souvent en direction de Shkodër, au nord, ou de la zone du sud du Kosovo, qui était tenue par des populations albano-kosovares. Ce qui fait que ces armes diffusées au sein de la population et reprises, elles sont reprises en main en partie par des clans criminels ou mafieux, et qu'elles sont organisées en trafic d'armes. Mais au niveau des usines, soit vous le faites dès l'intérieur et à la sortie, soit juste après pour dérober dans des convois ou dans des arsenaux, voire des armureries.
Et un grand nombre de ces armes, quand elles sont récupérées, ne sont pas en état de marche. Il y a alors tout un travail de remilitarisation qui permet de remettre en service des armes anciennes ou alors des armes qui ont été neutralisées, c'est-à-dire rendues inaptes au tir. C'est un phénomène qu'on observe beaucoup, Jean-Charles Antoine.
J'apporte une précision sur ce que vous venez de dire, pardonnez-moi. Quand vous dites les armes, quand elles sortent, ne sont pas en mesure de fonctionner, si elles sont en mesure de fonctionner, et parfaitement même, puisqu'elles sortent des usines de fabrication. Pour qu'elles soient neutralisées, il faut opérer une technique particulière pour les neutraliser, ou ce qu'on appelle les démilitariser, soit en trouant le canon, en collant, en fondant certaines parties entre elles, et elles deviennent inopérantes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut retravailler quand elles sont neutralisées, il faut les retravailler pour les remilitariser. Vous voyez, il y a deux techniques. Mais quand elles sortent d'usine, elles sont en capacité de fonctionner sans difficulté.
Oui, je pensais aux armes qui pouvaient être récupérées par d'autres biais et qui en effet ont fait l'objet de cette procédure de neutralisation.
Voilà. Exactement. Et pour remilitariser ou déneutraliser, c'est exactement la même chose, il faut tout d'abord les acheter et jouer sur la législation en cours. Et c'est là que La difficulté commence parce que on ne parle pas de la législation en cours, mais en Europe, on parle de des législations en cours, puisque chaque pays a globalement sa législation relative aux armes, qui se colle au désir de souveraineté, qui se colle à la culture du pays et qui se colle aux habitudes historiques de ce pays. La France est un pays de chasseurs. La Bulgarie ou les Balkans, ce sont des pays certes de chasseurs, mais également où la culture de l'homme en armes sont excessivement prégnantes pour leur défense personnelle.
C'est ce qui explique que certaines armes sont faciles à remilitariser et d'autres qui réclament carrément un travail d'orfèvre, Jean-Charles Antoine.
Non. C'est dû à la manière de les neutraliser, de manière plus ou moins efficace. La France neutralise les armes avec des techniques particulièrement difficiles à déneutraliser. Alors que d'autres pays, historiquement, même si ça a changé ces dernières années, d'autres pays faisaient uniquement un trou dans le canon, et il suffisait de changer le canon et ça refonctionnait. Mais c'est le jeu des transferts entre pays qui permet à ce moment-là de pouvoir jouer avec la législation. Vous achetez dans un pays d'Europe centrale une arme neutralisée officiellement avec le certificat de neutralisation avec un canon uniquement troué, vous arrivez en France, vous achetez un canon et votre fusil est de nouveau efficace. Mais sur quelle législation vous êtes coupable ? Sur la législation du pays où vous l'avez acheté ? Ou alors vous l'avez fait importer en France ? Est-ce que c'est l'importateur qui est responsable ? Est-ce que c'est vous ? Qui doit payer le passage au banc d'épreuve de Saint-Étienne pour montrer qu'il est que cette arme est effectivement neutralisée à la mode française? C'est tout un jeu en fait de dupes entre importateurs, acheteurs, qui permet de jouer sur, pas des vides juridiques parce qu'il n'y en a pas vraiment dans la législation française, mais sur des interprétations de la loi. Et effectivement, pendant pas mal d'années, ça a permis de procurer des armes, alors que maintenant, ça devient quand même plus difficile.
En l'occurrence, c'est une arme remilitarisée qu'a utilisée Hamedi Coulibaly lors de l'attentat à l'hypercachère de Vincennes le 9 janvier 2015. C'est ce que nous explique le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi.
Cette arme, c'est une très vieille arme qui date des années 60, 63 ou 64 de mémoire, qui a connu donc une existence légale et qui a été même neutralisée par une entreprise slovaque qui s'appelle Coal Arms en 2014. La plupart des armes des terroristes de janvier et de novembre ont été neutralisées par cette société. Cette arme a été achetée par Internet, par un trafiquant d'armes, en tout cas suspecté comme tel. Nous avons pu refaire l'historique grâce à son numéro de série qui sera retrouvé à côté du cadavre de Coulibaly dans l'hypercachère. Cette arme, entre-temps, a été, comme cela a été expliqué, remilitarisée. Cette arme qui était inoffensive est devenue mortelle et est passée entre le maillage, entre les mailles trop lâches de la réglementation européenne qui ne prend même pas en compte dans aucune de ses directives le problème des armes neutralisées, militarisé. Le mot ne figure même pas dans les directives européennes.
Voilà, selon Fabrice Arfi, il manque une harmonisation au niveau européen sur les méthodes de neutralisation des armes. C'est ce qui explique qu'il existe aujourd'hui encore des filières de déneutralisation à grande échelle, Jean-Charles Antoine.
À grande échelle, c'est difficile à évaluer. À échelle moyenne, oui, par petites commandes. Et effectivement, ça permet de faire circuler, justement parce que les frontières ont disparu dans l'espace Schengen, ça diminue les capacités des forces de sécurité des douaniers de pouvoir bloquer l'entrée sur différents territoires, pas qu'en France, partout ailleurs. Mais effectivement, après une échelle importante, c'est très difficile parce que ce ne sont pas souvent des centaines et des milliers d'armes ou des cargaisons entières dans des containers qui circulent d'un pays à l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des commandes trafic de fourmis, c'est-à-dire 3, 4, 5 armes, et qui sont beaucoup plus discrètes, forcément, puisqu'elles circulent dans le coffre ou la soute d'un autocar de nuit, qui circule dans la citerne d'une camionnette ou sous le siège d'un véhicule.
Il y a tout de même l'affaire Emmanuel Toski en 2012 qui avait montré que certains stocks d'armes remilitarisées pouvaient être assez importants. Certaines caches étaient assez considérables.
Oui, exactement. Emmanuel Toschi, dans l'est de la France, avait remilitarisé plusieurs centaines, voire 150 armes. Et il y avait eu, à la même époque, une affaire qui était partie de Belgique, où c'était 300 ou 400 armes. Il avait fallu 3 jours, je crois, de perquisition jour et nuit pour pouvoir la mener à bien. Là, effectivement, c'était en 2012. Depuis, il y a eu 2015. Et depuis, il y a eu le plan aussi, Cazeneuve, contre le trafic d'armes qui, malheureusement, bon, a été présenté le jour même des attentats de novembre 2015. Donc, il y a toute une batterie législative qui s'est mise en place depuis. Et ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça n'existe plus. Mais effectivement, c'est beaucoup plus regardé et plus compliqué. Pour autant, à partir du moment où un trafiquant ou un acheteur veulent se mettre en relation, ils ont de grandes chances d'y parvenir. Le rôle des services de sécurité est soit de l'empêcher au maximum, soit, quand ça arrive, de le constater et d'arrêter l'infraction et d'en remettre les auteurs à la justice.
Vous parlez de législation, Jean-Charles Antoine. On va revenir effectivement sur la régulation au niveau international, mais aussi au niveau national dans un instant.
Chronomètre actionné.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Yeah, processus enclenché. Si demain le monde entier explosait, hein, un dernier jour sur Terre a passé. Y'a quoi ? Y'a rien de neuf. Toujours les mêmes histoires à compter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filtrent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, Paris qu'un vestige. Les pierres froides de malaise qu'on se fiche. Vertige, explosion, police, tir, collision, tension. Manifestation, la violence frappe brutalement comme un faucon. Les photos planent, la chair en crame. Jour et nuit sous les flammes de l'enfer. Les qui cherchent à prendre la bouillane. C'est plein de faux qui rôdent. Les cités qui se surchauffent. Self-contrôle des fraudes, de ma chance en tôle, y'a rien de drôle. Juste le même rire, c'est l'aube qui se marre à chaque fois. En regardant ce qu'on a fait du monde, bon Dieu, j'en ai peur parfois. Des tonnes de guns d'armes, sexe, guerre et cam. On a fait du club, une poudrière, une bombe atomique haut de gamme. Un casino pour narcotique, une banque pour diplomate, où nombreux cliques. Ce livre bataille au nom du fric, les guerres saintes, tu parles. Y'a jamais eu de foi sauf des intérêts. Trafic d'armes, d'hommes, de religions, tout pour le billet. L'obscurité se répand, l'enfer sur terre domine le crime, paix. L'homme signe un pacte avec le diable, je le savais. Corruption, sous corruption, mafia, politique, paranoïa, complot, assassinat, CIA, yeah, exploitation, meurtre, commandite, secrets, coulées d'appui, dictature et world company, shoot planétaire, cocaïne, opium, violence, héroïne, coke, mélange amer, panique, la terre fait une overdose, que faire. J'ai rien voulu savoir, j'ai contribué à son histoire, j'ai foutu le borson, maintenant je chiale pour mes enfants, mes garçons. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer, pour tout recommencer à zéro, c'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer, pour tout recommencer à zéro.
Y'a rien de neuf, rimé, flambé, bluffé, batté les refs. Qu'a pourri dans l'œuf, le touch, les œufs des meufs, la vie rush. Les risques à vaincus, le rush des keufs, contite féroce. Qui veut vivre fauché, personne, jack, la vie est faussée. Y'a plus qu'à foncer, tête baissée, poussée à foncer. Facile à dire, difficile à faire, mais tout ça on sait. Mais tout ce qui s'est passé, pensez que t'arrives à pioncer. Les présidents secondés, l'économie du bled viandé. À se demander demain, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer. Sans plaisanter, y'a pas clair pour lui qui nique la santé. J'ai beau boire vidaine et j'arrive pas à éliminer mes féminés, tête vinée, grand verge pour m'examiner. Mon kikiné en me filant du sang contaminé. De l'armée réformée, la route fournit un taf de fourmis. La vie se propos t'es formée, tu t'accroches bien que t'as le mormé. Insécurité, chômage, misère, fais-toi un mort-né. Torture, inceste, pédophilie, adultère, antisémite. Pour l'être humain, plus de limite. Gourou, bandit, deviennent des mythes. Attentat insolite, insécurité, compte de la crypte. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. Les principes s'effritent, on fait confiance et traite de bons types. Qui fume pas, boit pas et prétend que la drogue ça constipe. À croire que tout skip quand je vois qu'il y en a pas un qui se rebise. Trop tard pour pleurer, j'ai avec ça depuis écœuré. Le pari couru, mourir ou finir pourri par eux. L'homme est à loup pour l'homme, se poussant sans cesse au maximum. Où va le monde? À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande.
C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer.
Un dernier jour sur terre de la Kika sur France Culture. Entendez-vous l'écho? Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Charles Antoine en duplex d'Aix-en-Provence pour parler du commerce illégal d'armes à feu. Alors, de quelles armes parle-t-on quand on parle de trafic d'armes, Jean-Charles Antoine? On parle plutôt en général d'armes légères.
On parle de toutes les armes, de l'arme blanche à l'avion de chasse. La plupart du temps, quand on parle de trafic d'armes dans la presse ou dans les quotidiens, effectivement, ça concerne les armes légères et de petit calibre, c'est-à-dire tout ce qui est portable par la main de l'homme.
Et les armes ont une portée symbolique. Qu'est-ce que la Kalachnikov, par exemple, incarne selon vous et comment expliquer sa longévité et son succès, si je puis dire?
Par plusieurs aspects. Le premier aspect est technique. Laurent Désiré Kabila expliquait que vous prenez une Kalachnikov, vous la jetez dans l'eau, vous la jetez dans le sable et la boue, vous la donnez à un enfant et elle fonctionne. C'est vrai. C'est une arme qui est, permettez-moi l'expression, increvable. On parle, et Fabrice Arfi tout à l'heure expliquait que l'arme datait de Koulibaly datait des années 60. On dit à l'heure actuelle qu'une Kalachnikov a une durée de vie de 60 ans. Mais dans 60 ans, on dira qu'elle a une durée de vie de 120 ans. Parce qu'à partir du moment où la Kalachnikov, ou je préfère parler de fusil de type Kalachnikov, parce qu'il y en a plusieurs types, à partir du moment où elle est bien entretenue, cette arme, où elle est bien huilée, où elle tire, elle est increvable. Elle est simple d'utilisation, elle est simple de conception et de fabrication. Mikhaïl Kalachnikov l'avait créé quand il était en convalescence, sur la base du Sturmgewehr 44, et il avait voulu l'améliorer. Et c'est comme ça qu'il en a fait une arme simple. Donc, qui dit arme simple, dit arme facilement utilisable et facilement vendable à l'échelle de la planète par l'Union soviétique à l'époque. C'est comme ça que tout un ensemble de combattants ont réussi à les obtenir. Mais un autre aspect est plus symbolique. Comme l'Union soviétique, dans sa politique de soutien à certains groupes rebelles à travers le monde, a fourni des centaines de tonnes de ce type de fusils, les photos à l'époque, relayé dans la presse et les médias, montrait les groupes rebelles avec un fusil de type Kalachnikov. Et il y a tout un aspect symbolique, voire charismatique, qui a été donné à cette arme devenue réellement mythique. On la retrouve sur le drapeau du Mozambique, on le retrouve dans les mains de Saddam Hussein, on le retrouve sous la forme d'une arme en or dans le film de Lord of War, la Kalachnikov, la Kalash, est en fait l'arme mythique du rebelle.
Et le fait qu'elle soit de plus en plus utilisée par les terroristes, ou au moins ça a été particulièrement visible en 2015 dans les médias, est-ce que ça change l'image de cette arme, Jean-Charles Antoine ?
Ça l'amplifie indubitablement, mais ça ne la change pas parce qu'elle possède déjà cet aspect mythique.
Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trafic d'armes dont on parle depuis le début de cette émission a lieu la plupart du temps en parallèle d'autres trafics, et notamment le trafic de drogue. Il y a rarement un trafic d'armes qui soit exclusivement un trafic d'armes.
C'est plus rare, effectivement. Pourquoi ? Parce que l'arme, comme je le disais tout à l'heure, est là pour amplifier la puissance de la main de l'homme, avec un H majuscule, de l'être humain. Et donc, y compris de l'enfant, hein, quelquefois. Et donc, si c'est un outil, il permet de défendre son territoire, mais tout simplement aussi sa part du gâteau criminel, quitte à vouloir l'augmenter, cette part du gâteau criminel. Donc des guerres territoriales pour le marché de la drogue ou de la prostitution. Et c'est comme ça qu'effectivement, une course aux armements peut se mettre en place pour augmenter la puissance de feu de chacun des acteurs du trafic, pour protéger ses filières, protéger sa vie et tenter de dissuader l'autre de venir l'attaquer. Et c'est effectivement comme ça que les armes sont utilisées et qu'elles viennent se coller sur le trafic de drogue. Mais pour autant, on a des marchés parallèles d'opportunités par des receleurs en tout genre qui peuvent avoir une ou deux armes à la commande et, de manière axée sur la proximité, peuvent fournir quelques armes à droite à gauche à des connaissances.
On parle du grand banditisme, on parle des terroristes qui ont recours à ces armes, mais les clients peuvent aussi être des chasseurs, tout simplement, qui cherchent des prix moins élevés, ou alors des civils, comme on le disait tout à l'heure, qui cherchent à se protéger, avec toujours cette idée que les armes appellent les armes.
Oui, la peur appelle les armes, puis les armes appellent les armes. Effectivement, pour autant, les chasseurs sont quand même des gens, certes passionnés, mais qui ne cherchent pas forcément à être dans l'illégalité, puisqu'ils ont la possibilité d'acheter légalement des armes. Comme les collectionneurs, comme les tireurs sportifs, ils ont le droit, ils ont l'autorisation. Donc, la plupart du temps, ils ne vont pas chercher à acquérir une arme illégalement. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, évidemment, des personnes moins respectueuses du cadre légal. Mais pour autant, ce ne sont pas les personnes qui vont être les plus en recherche d'armes illégales. En revanche, des personnes qui vivent en dehors du cadre légal depuis longtemps, qui sont des criminels, qui sont des délinquants de haut rang, ou des membres du grand banditisme, vont effectivement chercher à acquérir directement des armes de manière illégale.
Et alors le fait que des populations s'arment de plus en plus justement pour se défendre face à des groupes armés, c'est par exemple ce qui s'est passé au Nigeria, dont le Nord échappe en grande partie au pouvoir de l'État à cause des violences de Boko Haram, mais aussi à cause de l'explosion du nombre d'armes venues de Libye. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent, Jean-Charles Antoine, qu'aujourd'hui il y a énormément d'armes en circulation en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Nigeria.
Il y a toujours eu beaucoup d'armes en circulation en Afrique de l'Ouest. Elles ont basculé d'un territoire à l'autre, mais leur nombre n'a pas augmenté de manière significative non plus ces dernières années. Il y a un point important à conserver en mémoire, c'est que les pays qui bénéficient d'un État centralisé, voire hyper centralisé, sont moins impactés par ce besoin en armes parce que, exemple la France, parce que l'État central décide d'appliquer sur l'ensemble de son territoire, normalement, toute une législation de manière cohérente. Les pays à modèle politique plutôt fédéraliste, comme le Nigeria, laissent plus d'autonomie aux régions. Et effectivement, le nord du Nigeria est impacté, Boko Haram le montre depuis des années, en se procurant des armes, là où le besoin ne s'en fait plus ressentir. Et quand la guerre en Libye s'est arrêtée, effectivement, les armes ont basculé pour coller à la demande ailleurs.
Après la chute de Kadhafi en 2011, mais alors selon un rapport publié par l'OCDE l'an dernier, l'Afrique de l'Ouest est devenue la plaque tournante des réseaux criminels avec environ 500 millions d'armes illégales en circulation. Et à l'est du continent, c'est l'Érythrée, mise au ban de la communauté internationale, qui fournit des armes aux groupes armés de la région. Une situation qui pourrait changer, selon Robert Bessling, le directeur de la société de conseil privé EXX Africa.
Si l'Érythrée poursuit la paix avec l'Éthiopie et si l'Érythrée revient dans le giron de la communauté internationale, alors il y a une opportunité pour Djibouti de reprendre le rôle érythréen de fourniture d'armes aux groupes armés de la région. Cela créerait une opportunité pour Djibouti d'augmenter sa présence dans le trafic d'armes régionales. Le rapport affirme que parce que Djibouti a déjà certains réseaux en place, qui facilitent le transport des armes illégales depuis le Yémen vers la Somalie, le Soudan ou l'Éthiopie, alors il sera plus facile d'augmenter les volumes une fois que l'Érythrée ne sera plus impliquée. Mais bien sûr, les nouvelles routes du trafic auront besoin de temps pour se développer.
Voilà un extrait d'une interview réalisée par RFI. On voit bien là encore combien le trafic d'armes dépend de la situation géopolitique de la région dans laquelle il opère, Jean-Charles Antoine.
Totalement, dans la région et à ses abords. Trafic d'armes, il faut comprendre ça, trafic d'armes égale géopolitique. Que ce soit sur des micro-territoires ou sur des territoires beaucoup plus importants comme des États ou des régions entières ou des continents. Le cas de l'Érythrée avec Djibouti est un exemple parfait. Mais là où j'apporterai un bémol, c'est sur le fait que le monsieur explique qu'il faudra pas mal de temps pour que ça change les routes. Non, ça peut se faire en une journée. Ça s'est déjà vu. Et effectivement, si le besoin s'en fait ressentir dans un autre sur un autre territoire et que l'Érythrée décide d'arrêter, Djibouti ou un autre territoire peut reprendre le lendemain le flambeau, entre guillemets.
Et alors plus proche de nous, la Seine-Saint-Denis et Marseille font régulièrement la une des journaux en raison de règlements de comptes sanglants ou de découvertes de caches d'armes. Mais en réalité, il y a aussi une présence importante de stocks illégaux dans les petites agglomérations et dans les campagnes.
Exactement, c'est ce que j'avais appelé en son temps « armes des villes et armes des champs ».
Comment expliquer la présence de ces armes ?
On a l'habitude de penser que l'ensemble des armes illégales sont détenues dans les cités, ce qui est faux et qui a toujours été faux. En revanche, c'est là qu'elles sont le plus utilisées de manière illégale. Mais la détention et l'utilisation sont deux aspects totalement différents, complémentaires certes, mais différents. Et ils n'ont pas le même impact, évidemment. La détention peut être illégale à partir du moment où vous possédez 8 fusils de chasse de votre grand-père chez vous, que vous ne les déclarez pas. Et effectivement, vous n'allez pas les utiliser, mais vous les détenez de manière non légale, donc illégale. Mais si votre maison de campagne fait l'objet d'un cambriolage et que ces 8 fusils de chasse basculent dans le milieu local du marché noir, et que les canons sont sciés, que les crosses sont sciées, ça devient 8 fusils à canon sciés qui peuvent servir à des règlements de compte, soit dans votre région, soit là où le besoin se fait sentir. On prend l'exemple de la région marseillaise ou de la région de la Seine-Saint-Denis, parce qu'effectivement, il y a des guerres de territoire et des règlements de compte dus à ces guerres de territoire. Et cet aspect de rivalité de pouvoir sur les territoires amène et provoque ce besoin en armes.
Et c'est le fait que ces armes illégales soient disséminées sur le territoire qui fait que vous prenez, Jean-Charles Toine, une approche plus globale, plus nationale de la lutte contre le trafic d'armes.
Pour lutter contre le trafic d'armes, il faut arrêter d'imaginer que cette lutte sera la même partout sur la planète. Il faut arrêter de penser qu'elle sera efficace à 100%, puisque l'être humain a besoin d'armes. C'est un fait, depuis la nuit des temps. Donc il continuera à en produire et il continuera à en utiliser. À partir du moment où ces armes sont comprises comme étant un outil de puissance qui peut rassurer des personnes qui ont peur, il vaut mieux travailler sur la peur et éviter que le besoin réel ou ressenti se concrétise en achetant une arme. Mmh. Et à ce moment-là, en France, si on prend l'exemple français, il est nécessaire d'avoir une approche, par exemple, spécifique en Seine-Saint-Denis et spécifique à Marseille. Mais une autre approche sur ce que j'appelle les armes des champs, qui peuvent être différentes, où on peut trouver des gros arsenaux, plus dans les campagnes, avec le renseignement judiciaire par le biais de la gendarmerie, alors que sur des zones plus urbanisées, une collaboration avec la police sera efficace pour détecter les armes avant qu'elles soient utilisées dans les cités. Mais à l'échelle européenne, tant qu'il n'y aura pas une sorte d'agence européenne, alors sans prendre l'exemple forcément de l'ATF américaine, mais un peu sous cette sous cet aspect, c'est l'agence fédérale qui lutte contre les armes, le tabac et l'alcool, qui est un outil hérité de la prohibition dans les années 20. Tant qu'une sorte d'agence européenne de lutte contre le trafic d'armes et le crime organisé ne sera pas mise en œuvre et qui poussera sur l'harmonisation des différentes législations européennes qui doivent, je le rappelle, se coller sur la directive de 1991 de Bruxelles qui dispose les armes en 4 catégories, et bien à ce moment-là, sans cette harmonisation européenne, il sera très difficile de lutter efficacement.
Au niveau européen, on pourrait par exemple étiqueter les armes, constituer des inventaires nationaux, comme ça existe déjà à l'étranger, au Canada, je crois.
C'est une possibilité, mais il faut l'accompagner avec une capacité à recueillir les armes après utilisation, notamment dans les marchés gris. Fournir des armes produites en Europe, les fournir en dehors du territoire européen, comme ça a été le cas au Proche-Orient ces dernières années, nécessite le besoin de créer tout un mécanisme d'accompagnement sur place et de récupération, de recueil, et pas attendre que les gens les revendent, soit lors d'une mission de désarmement des Nations Unies, soit de le revendre à d'autres personnes parce qu'ils trouveront acheteurs.
On voit bien comment en Syrie la situation était complètement incontrôlable, et en l'occurrence comment ces armes ont pu passer à des groupes qui n'auraient pas dû les récupérer.
Oui, et puis quand Daesh a commencé à avoir des revers tactiques sur le terrain, tout un ensemble d'acteurs ont rebasculé des armes, y compris le Hezbollah, ont rebasculé des armes dans la plaine de la Beka au Liban pour pouvoir les avoir au plus proche. Donc il y a une circulation permanente, et de telles circulations peuvent se faire par un convoi nocturne de 8 heures, donc, dans lequel on met plusieurs camions remplis de caisses d'armement. C'est ce qu'avaient fait certains Touaregs en partance de Libye en 2014 et qui avaient amené ces armes dans le nord du Mali à la Zaouad. Donc c'est quelque chose qui est totalement faisable et assez rapide à mettre en place. Tant qu'il n'y aura pas cette approche géopolitique liée au trafic d'armes, cette approche qui permet de regarder les rivalités pour partir de la base du besoin et non uniquement de la filière descendante, tant qu'il n'y aura pas une harmonisation, la lutte contre le trafic d'armes, malgré tous les moyens mis en œuvre, va manquer d'efficacité à un moment donné.
Alors la lutte contre le trafic d'armes s'organise aussi au niveau international. Le 2 avril 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le traité sur le commerce des armes. Ban Ki-moon était alors secrétaire général de l'ONU, on l'écoute.
I'm honored to join you for this historic event. Today, we open for signature the landmark arms trade treaty.
Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement historique. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle étape du traité sur le commerce des armes, sa ratification. Le traité en lui-même a déjà permis de dévoiler que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants vivent dans la précarité et la peur à cause d'une libre circulation des armes et en particulier d'armes létales. Avec ce traité sur le commerce des armes, le monde a finalement décidé de mettre un point final au transfert d'armes qui s'effectue de manière totalement débridée de par le monde. Le traité va avoir un effet dissuasif puissant contre la circulation démesurée des armes qui déstabilisent les régions du monde et tout particulièrement les zones qui sont déjà en conflit.
Voilà un traité onusien qui a donc été adopté il y a 6 ans. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, Jean-Charles Antoine ? Jean-Charles Antoine, d'abord, que prévoit ce traité et est-ce qu'il a permis réellement des avancées ?
Alors, il permet tout d'abord une meilleure identification des menaces et un meilleur contrôle éventuellement de la traçabilité. Il faut remettre ce traité dans le contexte des acteurs qui l'ont supporté, lancé et promu. Ce sont principalement 2 États, le Royaume-Uni et la France, qui se sont appuyés, et il faut le reconnaître, sur une mobilisation historique de différentes organisations non gouvernementales qui ont porté à bout de bras ce projet il y a à peu près 10 ans. Et le traité sur le commerce des armes, le TCA, a été signé. Il a été signé par 130 pays. Pour l'heure, on approche, je crois, les 90 ou 100 ratifications. Ça ne veut pas dire qu'il va totalement rentrer en vigueur dès demain. Je prends l'exemple de la directive de 1991. Directive européenne de 1991 a été mise en application en France par la loi du 6 mars 2012, 21 ans après. Ce qui signifie que lorsque le TCA sera vraiment ratifié et que les entrées en vigueur entreront, il faudra plusieurs décennies.
Parce que pour l'instant, il y a des acteurs essentiels du commerce d'armes qui ne l'ont pas ratifié, justement.
Oui, alors certains, oui. Je rappelle que la France et le Royaume-Uni l'ont porté à bout de bras. Donc,
mais avec les États-Unis et la Russie ne l'ont pas ratifié.
Et l'Ukraine non plus. Donc effectivement, ce sont des États qui ne sont pas pour.
Alors mais qu'on parle des 2 premiers vendeurs d'armes au monde.
Oui, alors et ils assument totalement leur choix politique en la matière, en expliquant qu'effectivement, il faut avoir une vision réaliste et pragmatique des besoins en armes dans le monde, y compris par les emplois que ça génère, et qu'effectivement, il faut que ça puisse correspondre à leur propre culture interne. Et si on touche au sujet des armes à feu aux États-Unis, effectivement, l'approche sera différente de l'approche française ou européenne. Et même en Europe, une approche plutôt latine ou balkanique sera encore différente d'une approche Europe du Nord, scandinave ou britannique.
Mais vous dites que la France a ratifié le traité, Jean-Charles Antoine, pardon de vous interrompre, mais ça n'a pas empêché la France de soutenir la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Et ce sont des armes qui se sont finalement retrouvées au Yémen. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations.
Oui, c'est ça la différence entre effectivement un traité qui a pour but d'apporter un cadre international, un support de travail et la réalité géopolitique du quotidien.
Donc c'est un traité qui n'est pas du tout respecté. Que les États les ratifient ou non.
Je pense qu'en politique internationale et surtout en géopolitique, quels que soient les territoires, les traités sont considérés comme un outil qui peut servir et que chacun demande à ce qu'il soit respecté. Mais est-ce qu'il est préférable pour les États à un moment donné qu'il soit respecté ou pas ? Chaque État voit midi à sa porte, comme on dit, et peut être en mesure d'apporter des modifications pour la sécurité, soit de ses intérêts stratégiques, soit de ses accords et autres traités que le territoire a avec d'autres territoires.
En l'occurrence, c'est surtout des enjeux économiques, parce que les enjeux sont considérables. Le budget de l'Arabie Saoudite sur la défense est le 3e mondial derrière la Chine et les États-Unis. Un dernier mot peut-être, Jean-Charles Antoine, on arrive presque au terme de cette émission, mais sachant que les dépenses d'armement ne cessent d'augmenter dans le monde et que la régulation peine à lutter contre ce trafic, on a le sentiment que le commerce illégal risque lui aussi de prendre de l'ampleur. Est-ce que vous êtes assez pessimiste sur ce sujet ?
Je serai pessimiste. Il faut regarder à l'échelle mondiale, nationale, régionale, européenne. Ce sera à chaque fois différent. Je peux être pessimiste si, et je vais aller très vite, si effectivement il n'existe pas de mesure d'accompagnement. S'il existe une politique globale de containment, en fait, de cette problématique du trafic d'armes, alors on peut être optimiste.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le mouvement de grève générale qui a eu lieu hier à travers le pays.
Absolument, alors que la France est traversée depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation politique et sociale inédit, il était intéressant de voir ressurgir ce type de mobilisation fondée sur la grève et la manifestation de masse. Le mouvement des Gilets jaunes semble en effet aux antipodes de ce mode de manifestation à la papa qui invite ponctuellement adhérents et sympathisants à se rendre dans la rue pour manifester leur opposition à un texte de loi, une fermeture d'usine, une remise en cause de leurs droits. Il faut dire que le mouvement des Gilets jaunes ne combat pas une initiative ou un projet en particulier, mais dénonce plus globalement les limites du modèle français en matière économique, démocratique, mais aussi sociale et politique. C'est d'ailleurs ce caractère multiple, insaisissable des revendications, bien loin des mots d'ordre traditionnels des syndicats, qui a décontenancé une partie des observateurs et de la classe politique.
D'ailleurs, les Gilets jaunes n'optent pas pour les mêmes stratégies d'occupation de l'espace public.
Non, effectivement, choisissant de se donner rendez-vous chaque semaine sans discontinuer, plutôt que de se retrouver dans une manifestation massive et ponctuelle, les Gilets jaunes ont élaboré un nouveau mode de contestation politique dépassant le cadre économique des mobilisations classiques. S'ils réclament en effet des mesures en matière de travail et de justice sociale, celles-ci ne s'adressent plus à leur patron, au pouvoir économique, mais directement au président de la République, représentant et responsable en dernier ressort de l'injustice dont ils s'estiment frappés. Ce ne sont donc plus seulement des travailleurs, mais bien des citoyens qui se mobilisent, parfois pour la première fois, dans le cadre de ce mouvement d'un nouveau genre, un renouvellement de la sociologie des manifestants qui se traduit aussi dans leurs pratiques de mobilisation.
Il est d'ailleurs intéressant de constater que ces mobilisations se produisent désormais le week-end.
Oui, une information beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît, car traditionnellement, les manifestations se passaient en semaine à l'occasion d'une grève. L'objectif était alors pour les manifestants grévistes, non seulement d'exprimer leur point de vue, mais aussi de peser sur l'appareil économique et productif. Les appels à la grève et les mobilisations militantes se produisaient alors le plus souvent dans le cadre de l'entreprise, par l'intermédiaire des syndicats et des pairs qui se chargeaient de la cohérence des mots d'ordre et de l'importance des rassemblements. Or justement, le mouvement des Gilets jaunes semble s'être développé tout à fait en dehors de ces espaces traditionnels de l'entreprise et du syndicalisme. La mise en relation des manifestants se fait désormais avant tout par le biais des réseaux sociaux et des messageries instantanées. Les cercles de solidarité s'élargissent et la mobilisation ne se produit plus sur le temps de travail, mais sur le temps libre.
On peut donc s'interroger, Arjuna, sur l'efficacité comparée de ces deux dispositifs.
Oui, car on a eu tendance à considérer que les manifestations traditionnelles, et la grève en particulier, étaient des formes de moins en moins efficaces de contestation. Il faut dire que depuis 2006 et les manifestations qui avaient contraint le gouvernement à retirer son projet de CPE, pas un seul mouvement social ne semble avoir porté ses fruits et fait plier le gouvernement. Pas un seul jusqu'au mouvement des Gilets jaunes qui, en optant pour de nouvelles formes de mobilisation et d'occupation de l'espace public, a réussi à faire reculer le gouvernement et à obtenir certaines avancées, aussi maigres soient-elles. S'il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par la violence dans ces modes de contestation, le mouvement des Gilets jaunes nous interroge surtout sur la nécessaire adaptation de cette contestation. Si la grève ne suffit plus et que l'opposition droite-gauche n'est plus opérante, comment retracer des lignes de tension et d'opposition pour un véritable changement social? C'est l'énigme à laquelle semble vouloir répondre aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes.
Kalachnikov du groupe américain The Walkabouts. Merci beaucoup Jean-Charles Antoine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour un débat consacré à la question de la souveraineté militaire en France. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.